Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30-20h.
Salut à tous, Bismart sur Sud Radio, des aventures d'entrepreneurs. Tiens, une vraie aventure d'entrepreneur, on va pas perdre de temps, on va rentrer tout de suite dans le dur. Vous lancez, imaginez, vous lancez un nouveau produit formidable pour les cafés, bars, restaurants, un truc de dingue. Quoi, quasiment la veille du confinement? Non, j'exagère, mais vous allez voir. Après, faut quand même tenir, hein. Faut quand même tenir le choc. Allez, on démarre, c'est parti. Meriadec Buchmüller est avec nous. Bonjour Meriadec.
Bonjour Stéphane.
Prénom breton, Meriadec, c'est ça, hein?
Exactement.
Magnifique,
exactement.
Magnifique prénom. Mais je vais te demander, parce que fondateur de Isop, avant qu'on parle, donc vous vous rendez bien compte que c'est une bouteille, une magnifique bouteille, dans laquelle il y a donc... De la ginger beer.
Et les autres sont des toniques,
effectivement. Isop, c'est quoi Isop?
Alors Isop, en tant que tel, l'Isop c'est une fleur qui pousse en France. Et Isop c'est surtout une gamme de produits, des toniques et de la ginger beer, principalement pour confectionner des cocktails simples.
Non, ça j'ai compris, on va en parler. Mais pourquoi aller chercher un nom compliqué, j'en sais rien moi. Mon alcool à moi, bière que t'aimes, enfin vous voyez les trucs.
Isop en fait c'est une fleur amère qu'on peut travailler en liqueur et qui se trouve dans la composition de nos toniques en l'occurrence.
D'accord. Et tu voulais mettre un goût de mystère un petit peu autour de ta composition ou
ouais,
autour de la marque?
Alors autour de la marque pas forcément, autour de la composition bien sûr, les recettes sont dont on est propriétaire sont secrètes, on va dire ça comme ça. Il y a plus de 30 aromatiques dans nos produits, dont l'Isop, donc oui effectivement un peu de mystère.
Lancé l'année dernière
en mars 2019.
En mars 2019.
Exactement.
Et donc en mars 2020, après à peine un an d'existence...
C'est le petit clin d'œil, c'est effectivement...
Parce que j'imagine que c'est vendu dans les bars prioritairement, évidemment.
Principalement dans les bars, chez les cavistes aussi, dans les palaces.
Ouais, enfin voilà, dans l'ensemble des endroits où on pouvait plus aller.
Exactement, donc le 14 mars, le jour du confinement, c'était le jour exact de nos 1 an, donc c'était petit clin d'œil.
La vache.
Ouais, pas drôle, mais petit clin d'œil, on s'en souviendra quand ça...
Quand on est marqué à ce point-là par le destin, Meriadec, forcément ça porte bonheur.
C'est ce que je nous souhaite.
Ah, j'en suis absolument sûr.
Comment
on fait là, à ce moment-là, quand on a 1 an d'existence, j'imagine qu'on n'a pas non plus levé un pognon phénoménal pour pouvoir tenir. Comment est-ce qu'on se met en mode résistance dans ces cas-là?
Eh bien, on fait... On part du principe que ça peut être aussi des opportunités marrantes que d'avoir cette crise. On essaye de se dire qu'il faut être plus fort que les autres. Honnêtement, on se serre les coudes avec mon associé. Et on se dit qu'en fait, il faut penser notre distribution, notre commercialisation autrement que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et on se met en quête de trouver un distributeur national. Donc ça commence.
Parce que les supermarchés ils étaient ouverts et que tu t'es dit, bah, si on avait vendu en supermarché ou si on avait une petite ouverture en supermarché.
Alors le supermarché, on va y aller plus tard a priori. Mais là aujourd'hui, l'idée c'est de construire la marque avec les cavistes, avec le CHR. Mais on a un distributeur national qui distribue.
Café, hôtel, restaurant.
Hein, oui, pardon. Qui distribue principalement aux grossistes. Et donc on a fait des pieds et des mains, on a eu plusieurs offres et on a décidé en septembre de foncer avec un distributeur.
Mais ça veut dire quoi distribuer aux grossistes? Je comprends pas.
En fait, il y a plusieurs façons de distribuer. Si vous êtes producteur de bière, vous pouvez aller directement parler à des grandes enseignes de grandes distrib ou à des grossistes. Nous, on a une pluralité de clients qui sont les cavistes, les grossistes, le CHR, donc les cafés, hôtels, restos.
Ouais.
Comment on les adresse? On peut les adresser en live, en direct, mais souvent on se sert d'un service de logistique avec des agents commerciaux. Donc avec notre distributeur, on a 60 commerciaux déployés pour la marque Isop.
D'accord.
Depuis septembre.
Donc c'est eux qui font le boulot en fait.
Ils font une partie du boulot, ouais.
Non, mais c'est intéressant.
Ouais, c'est un modèle qui est très suivi par les gros groupes alcooliers. En gros, aujourd'hui, quand on lance une marque de spiritueux, c'est souvent le modèle que l'on a. Quand on a une bière, c'est un peu différent. Quand on fait du cidre, c'est encore différent.
C'est vachement intéressant parce que j'imagine que ces commerciaux, ils ont goûté le produit.
Évidemment.
Ils doivent être plutôt jeunes,
ouais,
ces commerciaux.
Tout à fait.
Hein, voilà, c'est un peu des jeunes gars. Donc, avec un peu de chance, ils deviennent tes premiers ambassadeurs, en fait. S'ils aiment le produit, ça peut être une puissance de feu.
Et c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on appelle dans les startups un peu le go-to-market.
Ouais.
Nous, on axe vraiment sur la commercialisation, sur la distribution. Évidemment, en ayant une marque qu'on essaye de construire très forte. Mais ce n'est pas avec des budgets marketing, c'est vraiment en travail main dans la main avec ses distributeurs.
Alors, si tu es là, alors il y a cette histoire à raconter, évidemment. Mais c'est aussi que c'est quand même une lame de fond. Que ce soit la bière. Moi, j'étais sidéré. Pour le coup, c'est Heineken qui m'a appris le nombre de bières aujourd'hui qui sont produites en France.
Ouais.
Il y en a plus de 1000. Voilà, hein, il y en a plus de 1000, très locales, etc. Donc, mais ça veut dire qu'il y a une demande. Hein. Ouais. Et puis, il y a une demande aussi. Alors, récemment, j'ai rencontré des entrepreneurs que tu connais peut-être, Maison Sassy.
Oui, tout à fait. J'ai...
Voilà, qui sont dans la même démarche que toi.
Exactement.
Qui réinventent le cidre normand.
En les positionnant, on positionne sur une premiumisation des spiritueux et du no-alcool ou du low-alcool.
Toi, ton sujet, c'est le gin tonic.
Exactement. Alors, ce que tout le monde connaît.
Le gin de base à 10 euros la bouteille avec du Schweppes, il y a moyen de faire mieux, globalement.
Ouais. C'est exactement ça. Et c'est exactement le sujet sur lequel on va. Et en fait, quand vous parliez d'une lame de fond, c'est exactement ça. En Angleterre et dans toute l'Europe occidentale, il y a une lame de fond du tonic en gin tonic, mais pas que en fait. On reparle du cognac tonic, on reparle je sais pas si je peux parler de marque, mais il y a énormément du Martini tonic, du Lillet tonic, du Sus tonic, il y a le Bourbon tonic, et en fait, ces marques-là, ces gros groupes sont en train de se dire comment on remet nos spiritueux autrement que en les buvant dry. Comment on les met derrière le bar et surtout comment on les remet chez les gens. Et en fait, le tonic, ça a eu une explosion énorme pendant le confinement parce que les gens ont acheté du gin et du tonic, ils se sont fait des cocktails à la maison et ça. Et en fait, c'est comme ça que ça.
En plus, je ne sais pas si tu as suivi, mais je ne sais pas si ça a été. Mais à un moment, on a raconté que le Schweppes, il fallait en boire, que c'était
exactement.
Bon.
Ouais.
Contre
exactement. Exactement.
Donc là, tu te dis, allons-y, les gars. Hein. On n'a rien à faire, on est chez nous, on est confinés et en plus, c'est bon contre le pire.
Il y en a qui en faisaient des cures, exactement. Et c'est parce qu'il y a du quinquina dedans. Et c'est une plante particulière.
Mais c'est vrai que c'est un sujet, en fait, de n'avoir que du Schweppes à mettre dans ces alcools-là. Voilà. Réponds à cette question existentielle.
Il y a 1000 brasseurs, il y a 120 distillateurs de gin en France. Il y en avait un il y a 20 ans.
Oh,
parce qu'il y a une vraie premiumisation de tout ça. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, quand on a des produits premium, on va pas aller les tabasser avec de l'industriel. Je suis un peu dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est la constante dans tous les cocktails, c'est que 80% du cocktail, c'est du tonic ou c'est de la ginger beer. Et en fait, autant le faire avec des bons produits, quoi.
Oui.
C'est ça le motto de Dizop aujourd'hui. Donc voilà. Et on produit, ça, c'est un truc hyper important. On produit tout avec des PME françaises. Je mets un point d'honneur à vraiment essayer de travailler, à faire avec des PME à côté de Cognac, à côté de Grasse en Provence. On produit tout en bio. Ça, c'est hyper important aussi. Évidemment, du packaging en verre. L'idée, c'est d'avoir un
Il y a le petit drapeau français dessus quand même. Hein.
On essaye.
Mais il n'y a pas bio. Non, parce que ça fait une vraie différence. Ah si, il y a le bio aussi. Il y a le petit label AB. Comment dire, tu vois, c'est, je sais pas, un jour, on va me proposer des cigarettes bio, c'est-à-dire, je sais que de toute façon, je me fais un peu de mal, quoi. Donc, le bio là-dessus devient un peu anecdotique, non?
C'est une super question, parce qu'en fait, il y a le bio, c'est pas uniquement le sourcing des produits, ce qui est une chose, nos produits sont bio parce que les ingrédients sont bio, mais c'est aussi des recettes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'ajouter des acidifiants en particulier, on n'a pas, et en fait, c'est la recette qui est bio, c'est pas les ingrédients qui sont bio, et ça c'est important. Alors évidemment, c'est pas que du marketing. Moi, je me cache pas que derrière du marketing. Quand je dis que c'est bio, les produits sont bio, et quand je dis que c'est français, c'est vraiment produit en France. Ça c'est une chose. Il y a un peu de faux bio aussi.
Et je comprends que tu joues aussi sur quelque chose. On en parlait hier. Faut provoquer des émotions. On est sur un produit premium, j'imagine.
Hein, exact,
voilà. Et donc, effectivement, produit premium, tu dois cocher absolument toutes les cases.
Ouais, exactement. Voilà. Exactement.
T'as pas le choix.
Alors,
soit utile ou pas utile, mais tu dois cocher toutes les cases, y compris la bouteille en verre.
Exactement. Et ça, c'est un autre sujet, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait. Est-ce que finalement la canette est peut-être pas plus écologique que le verre? C'est d'autres sujets, bon.
De
fond, mais c'est.
Réponse est oui. Hein. Si tu te poses la question, la réponse est oui.
Je sais, mais la clientèle ne l'entend pas comme ça.
Exactement.
C'est d'autres sujets, mais
c'est intéressant. Exactement.
Et on y réfléchit évidemment.
Exactement. L'aluminium est recyclable à l'infini. Voilà.
Exact.
À l'infini. Bien. Eh bien, écoute, bonne chance. Donc là, maintenant, tu es encore confiné, pour le coup.
Enfin, ouais. Là, ça se réveille depuis 15 jours avec notre distributeur. On part à l'export aussi. Il y a des pays où c'est moins confiné, notamment dans les pays scandinaves, où on a des premiers. Et puis, en fait, là, on se rend compte que ça prend de l'ampleur. Et donc, on est en réflexion pour lever des fonds là, dans les 6 prochains mois. Ça pousse fort, donc on est content. On n'a qu'une hâte, c'est que ce confinement soit levé.
Oui, c'est ça.
Et d'envoyer.
Et c'est génial parce que j'imagine. Bon, en fait, là, on a vécu un peu la même chose d'ailleurs, hein, nous, Bismart.
Ouais.
C'est-à-dire que tu es plus que prêt, quoi.
Ouais, bah là,
voilà,
c'est clair.
Là, vraiment, les mecs, je suis prêt, je suis archi prêt. Il faut que ça parte, là, voilà.
Envoyez les commandes.
Exactement. Bon, bravo. Myriadec Buchmüller, donc, le fondateur d'Isop, notre premier invité. On va dans le monde de la banque tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.
On termine, les amis, on termine. Alors, oui, j'ai mis parcours. Marie de Grand-Guillot est avec nous. Bonjour, Marie.
Bonjour.
Et donc, directrice déléguée, donc on dit, alors maintenant, c'est la nouvelle vie du compte nickel. Mais on ne dit plus compte nickel, on dit nickel maintenant.
Exactement, nickel tout court.
Pourquoi vous avez enlevé compte ? Je ne sais pas, c'est...
Plus simple, plus efficace. Il fallait qu'on marque les esprits plus fortement, donc voilà.
Normalement, une boîte comme Nickel, compte Nickel, on a raconté sa croissance, on a raconté son histoire. Hugues Le Bret, il est venu nous voir, enfin, on a traversé des épisodes de tempête avec Hugues ensemble. Et quand une boîte comme ça est rachetée par une banque comme BNP Paribas, normalement, en fait, elle n'arrive pas à maintenir cette dynamique. Donc, Marie, comment est-ce que vous faites pour maintenir, et est-ce que vous arrivez à maintenir la dynamique d'une boîte qui est née dans la tempête ?
Je trouve que c'est une super question.
Mais oui, ouais. C'est la bonne question.
Exactement, et qu'on ne m'a pas encore beaucoup posée. Effectivement, je pense que la relation avec notre actionnaire, elle est complètement fondamentale dans le succès qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que c'est très facile, je pense, pour les banques aujourd'hui de racheter des fintechs assez chers et en gros de les envahir avec leur processus, leur gouvernance, leur conformité et de les étouffer. Et c'est pas du tout ce qui se passe avec nous. Ce qui est très important, c'est que ce rôle et cette relation entre Nickel et BNP Paribas, on est sur une ligne de crête. On joue ensemble à l'équilibriste, mais on le fait par magie, de manière assez remarquable. Et en gros, aujourd'hui, on arrive, Nickel, à être très indépendant. On choisit notre stratégie, on choisit nos produits, on choisit notre marketing, on est même sur nos plateformes IT, dans le monde bancaire. Mais on est on a un conseil de surveillance, on a un actionnaire qui nous suit de près et on bénéficie de toute l'expertise, de la puissance de feu d'un groupe bancaire comme ça, notamment sur les sujets peut-être un peu moins sexy, dont on parle un peu moins, mais pourtant fondamentaux, que sont la conformité, le juridique, les risques,
tu rigoles,
la sécurité.
On va se tutoyer, hein, Marie. Tu rigoles. Très bien. La conformité, c'est comme ça que les banques ont essayé de tuer le compte Nickel. C'est d'abord en l'attaquant sur la conformité, en disant c'est un outil de blanchiment, en disant vous respectez pas l'ensemble des règles qu'il faut respecter. Ben non, c'est au cœur du truc.
Bien sûr, mais la conformité, c'est au cœur des sujets des opérations de Nickel. Première chose, juste parce que tu fais une petite parenthèse, et puis qu'on se tutoie du coup.
Ouais.
Nickel et les fraudeurs. Je pense que c'est très important de se rendre compte qu'avec des outils digitaux comme ceux qu'ont Nickel en main, on est capable de mettre en place des dispositifs de lutte contre la fraude, de lutte contre le financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment qui sont d'une efficacité inouïe par rapport à ce qui est possible dans les banques traditionnelles. Première chose, donc ça c'est mis à part. Quand je dis qu'on apprend...
Comment ça ? Attends, non, j'ai trop vite écarté. Tu dis par rapport à ce qui est disponible dans les banques traditionnelles ?
D'une efficacité, parce qu'on a une agilité.
Tu es toi plus efficace dans la...
Je pense, par exemple, nous, notamment, on a toute notre donnée. On a encore un modèle simple, on a un produit unique, on a une complexité, on n'a que 6 ans.
On n'a pas dit il y a combien de millions de membres ?
Donc, chez Nickel, on a 1,8 million de clients, voilà, on ouvre à peu près plus de 40 000 comptes tous les mois, donc on a une croissance phénoménale. Mais l'avantage, c'est qu'on a un produit simple, c'est un compte courant avec une carte. On est uniquement sur payer, être payé, oui, et on n'a que 6 ans. Donc la complexité qu'on a engendrée est encore toute relative. Et toutes nos données sont au même endroit, accessibles de toutes nos équipes. Quand vous êtes une entreprise centenaire, bicentenaire, même plus récente, mais quand même pas de 6 ans, vous avez différents systèmes qui s'empilent, la donnée n'est pas accessible, c'est très compliqué d'avoir une vision de bout en bout d'un client, de toutes ses transactions. Nous, tout est accessible. Donc en fait, nos équipes de conformité, elles ont une capacité d'analyse et d'autonomie qui est gigantesque par rapport à ce qui peut être fait chez d'autres acteurs. Donc ça, c'est le premier sujet.
Et alors là, pour le coup, quand même, il faut le dire, c'est-à-dire, là, il n'est plus question de rigoler parce que vous contaminez BNP Paribas.
Il n'a jamais été question de rigoler.
Et c'est le sujet de tous les sujets. Non, mais comme, en fait, à un moment quand même, alors, je la connais avec intimement, vous ne pouvez pas savoir à quel point je la connais, votre histoire. En tout cas, l'histoire de Nickel. À un moment, quand même, quand vous êtes dans une aventure de croissance et dans une histoire de croissance, vous pouvez faire Zoom avec la sécurité, par exemple, et le fondateur de Zoom a reconnu qu'ils avaient déconné, et clac, 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 on a vite verrouillé ce qu'il y avait à verrouiller. Il y a eu un moment comme ça aussi dans l'histoire de compte Nickel, où à un moment, on est sur une telle croissance qu'il y a des trucs auxquels on n'a pas fait gaffe, et on les verrouille très, très vite. Bon, d'accord, mais voilà.
Mais en tout cas...
Je referme la parenthèse.
Ok, mais je veux juste quand même préciser qu'on est depuis le début dans un marché régulé. Si vous connaissez Hugues, vous connaissez nos fondateurs, ils ont remis un dossier de 4000 pages pour avoir l'agrément. Il y a eu un travail fait sur nos processus dès le démarrage qui était phénoménal. Et aujourd'hui encore, on s'améliore, on apprend. Et d'ailleurs, les fraudeurs sont en perpétuelle créativité. Et il se trouve que nous aussi. Sauf qu'on a des gens qui adorent trouver ce qu'ils vont inventer. Et eux, ils adorent trouver des solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dynamique. Et quand je dis que dans la relation au groupe BNP Paribas, c'est un élément sur lequel on apprend, c'est par exemple... Donc déjà, il y a trois métiers chez nous qui ne sont pas rattachés directement à notre patron, qui sont rattachés à un patron dans le groupe. Donc c'est ces trois métiers, juridique, conformité et risque. Quand je dis qu'on apprend, c'est que ça fait des années... que le groupe BNP Paribas, comme les autres groupes bancaires, sont exposés à ces niveaux de risque. Donc on apprend énormément pour ensuite intégrer ces schémas de fraude et ces niveaux de sécurité dans nos systèmes et donc apporter de meilleurs services à nos clients.
Marie, alors d'abord j'ai bien aimé la façon dont tu as dit notre actionnaire, c'est-à-dire tu te considères pas, toi t'étais pas dans l'histoire Nickel avant le rachat à BNP Paribas.
Non.
Et t'étais chez BNP Paribas et t'as été détaché auprès de Nickel ou
pas du tout.
T'es rentré direct Nickel sans passer par la case BNP Paribas.
Moi, je viens du monde associatif. Je dirigeais une grosse ONG qui fait du microcrédit dans une équipe fabuleuse et j'ai rejoint Nickel parce que je suis convaincue de l'impact de cette entreprise pour les Français en général.
Alors, et dans la croissance de Nickel et dans le succès de Nickel,
il y avait aussi
une communication, quoi. Il y avait aussi, c'était la banque sans banque. Encore une fois, Hugues, c'est lui qui m'a donné les chiffres de la façon dont les banques, à travers les découverts, sont en fait... Enfin, la banque coûte trois fois plus cher à quelqu'un qui n'a pas d'argent qu'à quelqu'un qui a de l'argent. Globalement, c'est à peu près ça le sujet, hein, avec les découverts, avec... Bref. Et Hugues, dénonçant d'ailleurs ces banquiers qui poussent d'une certaine manière à la consommation et aux découverts les plus fragiles et les plus faibles. Tu peux plus communiquer sur ce terrain-là, toi, aujourd'hui.
Oui, alors donc, Hugues est un talentueux, brillantissime communicant. Et je pense que quand on n'existe pas, exister contre fait énormément de sens. Pour faire émerger une entreprise comme Nickel, se dire, tiens, je vais taper sur qui? Sur les gens qu'on aime d'habitude, globalement, assez bien taper dessus. Ça pourrait être porteur d'une notoriété spontanée qui soit très forte. Et je pense que ça a été très malin de le faire comme ça. Parce que l'objectif d'une entreprise qui veut changer autant les choses et autant le quotidien des Français, c'est de se faire connaître le plus vite possible. Donc la communication, c'est fondamental. Aujourd'hui, on est contre personne. Aujourd'hui, on a 1,8 million de clients. On a 5800 buralistes partout en France. 5800 buralistes, ça veut dire qu'en 6 ans, on est le troisième réseau de distribution de concurrents en France, en couverture du territoire. Donc, on est contre personne, on trace notre route, on est en train de devenir européen, ça va sûrement pas s'arrêter là. Et donc, on n'est pas anti-banque, on n'en a pas besoin.
N'empêche que, je tiens à le dire, parce que Bismarck, là, défenseur des banques, si les banquiers ont un refuge, c'est ici. N'empêche que les frais d'intervention, c'est un scandale. Voilà. Alors depuis, d'ailleurs, ils ont été plafonnés, mais c'est quand même un scandale invraisemblable.
Mais juste pour ce point-là, donc là, c'était juste sur le côté de la com.
Ouais.
Sur nos clients, ils n'ont pas changé. On a un tiers de nos clients, et on est fiers de tous nos clients, un tiers de nos clients qui ont un historique bancaire hyper compliqué, qui ont été fichés, et qui, avec nous, veulent juste vivre leur vie tranquillement, à gérer leur argent, acheter, dépenser. Le deuxième tiers, c'est des gens qui payent cher la banque. Et comme tu le disais, le compte courant, c'est 215 euros par an en moyenne pour les Français. Si vous gagnez, vous faites partie des 20% des Français qui gagnent le moins, vous payez jusqu'à 400 euros. Pourquoi ? À cause du découvert. 40% des Français sont en dépassement d'autorisation de découvert tous les mois. Donc ce n'est pas juste quelques populations, c'est énorme.
Ils ne le sont pas par hasard.
Exactement.
Ils le sont aussi parce que les banques qui auraient parfaitement les moyens de stopper ces découverts beaucoup plus tôt ne le font pas.
Le modèle économique des banques, celui-là,
Je le maintiens.
Bon, très bien. Parfait.
Ça n'est pas un débat.
Mais voilà. En tout cas, on a toujours ce tiers-là. Et pour nos clients, vis-à-vis de ce tiers de clients, l'objectif, c'est de reprendre le contrôle, comprendre combien ça vous coûte.
C'est ça. Et en gros, parce qu'il faut le préciser, il n'y a pas de découvert possible.
Chez nous, il n'y a pas de découvert. Ça coûte 20 euros à l'année. Puis ensuite, c'est à l'acte, selon ce que vous allez faire. Donc, en moyenne, ça coûte 65 euros par an par client. Ce qui, en gros, vous fait diviser par 3, 3,5 le coût. Donc, ça, c'est énorme. Et puis, le dernier tiers, c'est des comptes secondaires. Et là-dessus, on se bat plutôt avec les autres néobanques. C'est vous voyagez beaucoup. Bon, en ce moment, on voyage plus trop, mais on a très peu de frais à l'étranger. Vous voulez acheter sur Internet et pas risquer votre salaire. Vous prenez un compte dédié, ce genre de compte. Donc, c'est important de redire que nos clients sont les mêmes que ceux que tu évoques et que 60% de nos clients nous utilisent comme compte principal. Et c'est vraiment ça notre stratégie.
Ouais. Marie de Grand Guillot, la directrice déléguée de Nickel, était donc avec nous. On se retrouve demain sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.
Allez, tout de suite, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Place à notre patrimoine, ces conseils de famille sur Sud Radio.